Les podcasts du Collège de France, littérature.
Bien, je commence par revenir sur un point que j'ai abordé la dernière fois, en raison d'une lettre que j'ai reçue depuis. Quelqu'un me demandait pourquoi je n'avais pas parlé de Jean-Marie Guyot parmi les philosophes contemporains de la jeunesse de Proust, qui avait parlé de morale. Je disais, tous les philosophes contemporains de Proust parlaient de philosophie morale. Je ne les ai pas tous cités. Je n'ai mentionné finalement que ceux avec qui Proust a pu être en contact, comme ses professeurs au lycée Condorcet en classe de philosophie, Darlu, ses professeurs à la Sorbonne, Janet, Boutroux, Céaille, ou encore Desjardins, avec qui il était en contact par sa famille et avec qui il a correspondu, puisqu'il y a des lettres de Proust à propos de cette union pour l'action morale fondée par Paul Desjardins. Certes, il y a beaucoup d'autres ouvrages, et c'est vrai que l'ouvrage de Jean-Marie Guyot est très intéressant. Il vient d'être réédité au mois de janvier dernier, il y a quelques jours. Donc. Il est intitulé « Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction ». C'est une tentative pour fonder une morale républicaine, une morale positive qui ne soit ni spiritualiste ni kantienne. Jean-Marie Guyot était un jeune philosophe. C'était le fils d'un auteur très célèbre que nous avons tous lu. Enfin, je ne sais pas si tout le monde l'a lu dans son enfance. Moi, je l'ai encore eu comme livre de lecture à l'école primaire. Il est le fils de G. Bruno, l'auteur du Tour de France par deux enfants. C'est vraiment une famille républicaine type. Fils de cette madame Alfred Fouillet, qui elle-même était la femme d'un philosophe qui a aussi écrit sur la morale, Alfred Fouillet. C'est un livre que, Le Tour de France par deux enfants, tout le monde l'a lu, mais l'esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, je crois que il y a eu beaucoup d'éditions, c'était un petit peu le manuel de l'école républicaine et des écoles normales d'instituteurs. C'est un livre intéressant, c'est un livre que Nietzsche connaissait et auquel il répond dans les fragments écrits dans les dernières années de sa vie. Mais j'en reviens aux objections que je rappelais la semaine passée, en fin de cours, à la lecture qui était faite de la littérature moderne par les philosophes moraux contemporains. Et je disais que souvent, cette lecture était, pour ainsi dire, anachronique, puisqu'elle lisait la littérature moderne comme si cette littérature posait toujours les questions de la littérature classique. Comment vivre bien? Qu'est-ce que vivre bien? Or, disais-je, chez un auteur comme Proust, on est très loin de la recherche de la vie bonne, du souci de soi. Prenons encore quelques exemples pour montrer l'absence de cette réflexion sur comment vivre. Voici par exemple ce passage très célèbre de la fin du temps retrouvé, une fois que le narrateur a trouvé sa vocation et qu'il s'apprête à écrire. Voici comment il définit le livre et la lecture. Passage bien connu. En réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n'eût peut-être pas vu en soi-même. La reconnaissance en soi-même par le lecteur de ce que dit le livre est la preuve de la vérité de celui-ci, et vice-versa, au moins dans une certaine mesure, la différence entre les deux textes pouvant être souvent imputée non à l'auteur, mais au lecteur. Le lecteur est certes présenté encore comme le lecteur de soi-même, c'est lui-même qu'il lit dans le livre, et l'épreuve de la lecture, suivant le narrateur du temps retrouvé, c'est celle d'une certaine reconnaissance, la reconnaissance en soi-même de ce que dit le livre. Non pas, peut-on faire remarquer, la reconnaissance ou la connaissance de soi-même dans le livre. Mais est-ce au sens de la recherche classique de la vie bonne ? Non, apparemment pas. Il s'agit plutôt du livre comme instrument de reconnaissance de soi, et peut-être même pas, puisque c'est une façon de faire l'expérience du livre, d'entrer dans le livre et de l'expérimenter. Le narrateur distingue la connaissance de tout ce qui est de l'ordre de l'action et de l'interaction humaine, et il n'est pas apparent qu'il loue la vertu éthique du livre. Bien plutôt, il s'agit d'une dimension herméneutique indispensable. On lit le livre en s'identifiant à lui et en se retrouvant en lui. Et c'est ainsi que le temps retrouvé conduit bien plus à une esthétique qu'à une éthique. Mais, encore une fois, je dis cela provisoirement et on y reviendra dans la suite de ce cours, puisque on peut sans doute soutenir qu'à la fin du temps retrouvé, dans cette exaltation, dans cette élévation qui constitue la fin, le dénouement du livre, il y a une sorte d'exaltation vers la générosité et peut-être vers l'amour du genre humain, comme je le signalais la semaine passée. En tout cas, me semble-t-il, cette éthique kantienne, républicaine, du devoir, de la solidarité, elle est toujours présentée dans la recherche du temps perdu comme une illusion, j'en donnais quelques exemples la semaine passée, mais en voici encore un qui est assez important puisque s'y trouve mêlée toute une série de lieux communs de la philosophie morale. C'est dans le petit train de Balbec vers la Raspelière, dans Sodome et Gomorre, où se retrouvent tous ces moralistes que sont Brichot, professeur de morale à la Sorbonne, Charlus, la princesse Scherbatoff, le sculpteur Ski et le docteur Scotard. Et la morale, en cette fin du XIXe siècle, elle est largement l'affaire des médecins, comme on va le voir. Le passage est comique, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne nous dit pas un certain nombre de choses importantes. Dans une bouillie de lieux communs philosophiques avec lesquels parle le docteur Cottard, il répond à la princesse Scherbatoff qu'il a traité de sceptique. Le sage est forcément sceptique, répondit le docteur. Que sais-je ? Gnoti, c'est autant. Connais-toi toi-même, disait Socrate. C'est très juste, l'excès en tout est un défaut. Mais je reste bleu quand je pense que cela a suffi à faire durer le nom de Socrate jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qu'il y a dans cette philosophie ? Peu de choses en somme. Quand on pense que Charcot et d'autres ont fait des travaux mille fois plus remarquables et qui s'appuient au moins sur quelque chose, sur la suppression du réflexe pupillaire comme syndrome de la paralysie générale, et qu'ils sont presque oubliés. En somme, Socrate, ce n'est pas extraordinaire. Ce sont des gens qui n'avaient rien à faire, qui passaient toute leur journée à se promener, à discutailler. C'est comme Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. C'est très joli. Mon ami, pria Madame Cottard, naturellement, ma femme proteste. Ce sont toutes des névrosées. On me dira peut-être que, comme dans le cas de Brichot, évoqué dans un cours précédent, le passage ne doit pas être pris trop au sérieux lorsque le docteur Cottard parle de morale. On est dans des blagues de potache. Mais je le répète, la morale est affaire de médecins en cette fin du XIXe siècle. Ce sont eux qui disent comment vivre bien. Et d'ailleurs, la phrase citée par Cottard, sur laquelle je vais revenir, « L'excès en tout est un défaut », elle figure aussi dans La recherche du temps perdu, dans la bouche du professeur E, celui qui a soigné la grand-mère, et lorsque le narrateur lui apprend, en le retrouvant à Balbec, la mort de sa grand-mère, il y a une page de critique des médecins et du discours des médecins, ces médecins qui disent notamment « l'excès en tout est un défaut » et qui conseillent la mesure. Dans le discours cocasse de Cottard, tout est donc mélangé. Le « que sais-je » de Montaigne, par lequel commence la tirade, hein, « que sais-je », avec cet emblème de la balance, puis le « connais-toi toi-même » de Socrate, hein, l'inscription du temple d'Apollon à Delphes, et la devise même de l'humanisme. Et puis, c'est très juste, « l'excès en tout est un défaut », on passe ici au proverbe sur la mesure, mais qui contient, qui condense toute une tradition philosophique, hein, depuis Aristote. Hein. C'est la prudence d'Aristote, résumée par Condorcet avec ces mots mêmes. Hein. Chaque vertu est placée entre deux vices, dont l'un en est le défaut et l'autre l'excès. Donc, cette vertu qui se tient au juste milieu entre le défaut et l'excès. Et c'est encore ce qu'on trouve chez Sénèque, « En tout l'excès est un vice », chez Horace, « En toute chose il y a une mesure », chez Joubert, « Tout excès est défaut ». Je rappelle tout cela parce que malheureusement, dans l'édition de Sodome et Gomorre de la Pléiade, je m'en aperçois toujours, il manque des notes. Hein. J'aurais dû mettre une note à cette « L'excès en tout est un défaut ». Voilà mon mea culpa et la tradition de cette défense de la mesure. Et le marquis de Cambremer lui-même, un peu plus tard dans Sodome et Gomorre, dans les conversations de la Raspelière, au moment où il dénonce le dreyfusisme de Saint-Loup, Saint-Loup qui est de parenté allemande, mais de grande famille française, le marquis de Cambremer dit « J'ai beau être très à cheval là-dessus, il ne faut pas faire d'exagération, ni dans un sens, ni dans l'autre. In medio virtus. Ah, je ne peux pas me rappeler. C'est quelque chose que dit le docteur Cottard. En voilà un qui a toujours le mot « Vous devriez avoir ici un petit Larousse ». Allusion donc à un autre proverbe, « In medio stat virtus ». Mais c'est encore dans un distique contemporain de Proust qu'on peut trouver ces mots, hein, chez Maurice Boutet de Montvel, dont vous vous souvenez peut-être, c'était un illustrateur des fables de La Fontaine, auteur de ce distique, « Faut de la vertu, pas trop n'en faut, l'excès en tout est un défaut ». Vous voyez qu'il y a là toute une tradition de cet éloge de la vertu qui nous renvoie au dérisoire et au cocasse du docteur Cottard, mais nous montre bien que nous sommes ici dans une leçon de morale, une leçon parodique de morale, comme on en trouve dans la bouche de Brichot, qui nous mène enfin à ce commandement du Christ, aimez-vous les uns les autres, suivant l'évangile de Jean, hein, je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous vous aimiez aussi les uns les autres, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans la bouche de Cottard, toute cette confusion entre la morale humaniste, celle de Socrate, jusqu'à Montaigne, en passant par Aristote et la défense de la prudence, confondue avec le message de la fraternité ou de la charité chrétienne, tout cela est quand même assez intéressant et nous rappelle que, avec l'amour du prochain, c'est cette version contemporaine de la fraternité, de la charité qui est tournée en dérision par notre docteur Cottard. Proust ne se situe pas, il ne faut sûrement pas dire jamais, mais en tout cas, se situe très peu du côté de l'éthique comme souci de l'autre, comme solidarité, comme fidélité à l'autre, comme engagement vis-à-vis de l'autre. Et je prends ici encore, pour l'opposer à lui, l'exemple de Montaigne, ce Montaigne évoqué par le docteur Cottard avec son « Que sais-je ?» Montaigne qui disait « La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute » et qui défendait constamment cette dimension de solidarité humaine. Et dans le chapitre de l'utile et de l'honnête, premier chapitre du livre 3 des Essais, Montaigne réfute systématiquement tous les exemples qui plaident pour le mensonge, pour la trahison. C'est un chapitre, anti-machiavélien, défenseur de la plus stricte morale humaniste, et qui considère la fidélité, l'engagement vis-à-vis de l'autre, comme le fondement de tout lien, de tout pacte social. Si on ment, si on trahit sa parole, comme Machiavel le recommande dans le livre Le Prince, eh bien, suivant Montaigne, c'est tout l'édifice social qui se défait. Nous sommes tous solidaires dans cette construction qui lie l'éthique privée et l'éthique public. L'exemple extrême, l'exemple hyperbolique que prend Montaigne pour justifier qu'il ne faille jamais trahir sa parole, que si on trahit sa parole, eh bien, tout le monde se déconstruit. L'exemple extrême que prend Montaigne, qu'il emprunte à Cicéron, c'est celui du prisonnier qui a promis une rançon et qui, lorsqu'il est libéré, ne verse pas la rançon. Et Cicéron prenait cet exemple dans le De Officiis, et Cicéron admettait que dans un cas extrême comme celui-là, cas de force majeure, on pouvait trahir sa parole. Si j'ai promis de donner de l'argent sous la contrainte, eh bien, je suis excusé si je ne paye pas la rançon une fois libéré. Et voici ce que dit Montaigne. « L'exemple qu'on nous propose pour faire prévaloir l'utilité privée à la foi donnée, à la parole donnée, l'utile contre l'honnête, ne reçoit pas assez de poids par la circonstance qu'ils y mêlent. » La circonstance qui est celle du rapt et de la rançon. « Des voleurs vous ont pris, ils vous ont remis en liberté, ayant tiré de vous serment du paiement de certaines sommes. » On a tort de dire qu'un homme de bien sera quitte de sa foi sans payer, étant hors de leurs mains. Montaigne accorde beaucoup de poids à ce mot de foi. La foi, c'est la fides latine, c'est le fondement de toute la construction humaine et de la société. Il n'en est rien. Ce que la crainte m'a fait une fois vouloir, je suis tenu de le vouloir encore sans crainte. Et quand elle n'aura forcé que ma langue sans la volonté, encore suis-je tenu de faire la maille bonne de ma parole. Même si je ne l'ai pas voulu, mais que je l'ai dit, je dois payer. Pour moi, quand parfois elle a inconsidérément devancé ma pensée, j'ai fait conscience de la désavouer pourtant. Autrement dit, même si ma parole n'a pas bien représenté ma pensée, je suis engagé, nous dit Montaigne, vis-à-vis de l'autre par ma parole. Je dois tenir cette parole, même si elle a été au-delà ou à côté de ma pensée. Autrement, de degré en degré, nous viendrons à renverser tout le droit qu'un tiers prend de nos promesses et serments. En ceci seulement a loi l'intérêt privé de nous excuser, de faillir à notre promesse, si nous avons promis chose méchante et inique de soi, car le droit de la vertu doit prévaloir le droit de notre obligation. Position assez extrême que celle de Montaigne, procès de Machiavel. Je dois être fidèle à ma parole, même si cette parole a été forcée, a été obtenue par la contrainte et par la violence. Je suis obligé à l'autre plus qu'à moi-même, selon cette éthique de Montaigne, et je puis seulement me dédire si la chose que j'ai promise est donc inique en elle-même, inique en soi, contraire à l'équité. Il y a là, d'un côté la fidesse, ce sont les deux grands principes de la morale, fides equitas, la fidélité et l'équité. Si la fidélité est contraire à l'équité, eh bien c'est seulement dans ce cas-là que je peux être infidèle à ma parole. Et Montaigne résume dans ce chapitre, dans cette belle formule, cette éthique de l'autre, si l'on veut. En résumé, dit-il, un parler ouvert ouvre un autre parler et le tire hors, comme fait le vin et l'amour. Un parler ouvert ouvre un autre parler. C'est donc ce pari du dialogue que Montaigne postule ici, ce pari du dialogue qui fait que lorsqu'on donne sa confiance à l'autre, l'autre est obligé de vous rendre sa confiance, comme avec le vin et l'amour. Eh bien, peu de choses semblables à trouver dans la littérature moderne en général et, dirais-je, chez Proust en particulier. Si bien qu'un philosophe contemporain, prônant justement le retour à la littérature, le retour pragmatique à la littérature, Richard Rorty, que j'ai cité il y a un certain nombre de séances déjà à propos de ce retour de la philosophie vers la philosophie morale, non kantienne et non utilitariste, Rorty distinguait deux sortes de livres, disons en gros deux genres de livres. Il y a deux genres de livres, disait-il, ceux qui nous aident à devenir plus autonomes et ceux qui nous aident à devenir moins méchants. Et à ses yeux, ces deux sortes de livres étaient rarement les mêmes, puisqu'il les distinguait. Et il plaçait fermement la recherche du temps perdu dans le premier genre. La recherche du temps perdu, à ses yeux, appartient au genre de livres qui nous aident à devenir plus autonomes, plus libres, plus indépendants, à nous découvrir nous-mêmes, à nous connaître nous-mêmes, à devenir nous-mêmes. La recherche, disait-il, c'est une somme et une élaboration d'expériences qui nous incite à devenir qui nous sommes, suivant cet adage fameux repris par cet adage venant là aussi des anciens, puisqu'on le trouve chez Pindare, mais qu'il est repris à de nombreuses fois par Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathoustra, dans Le gai savoir, dans Ecce Homo. Nietzsche reprend cette injonction, deviens qui tu es, ou deviens ce que tu es, selon les traductions. Eh bien, pour Horty, l'œuvre de Proust, le roman de Proust, appartient à cette catégorie de livres qui nous font devenir qui nous sommes, plutôt donc qu'ils ne nous font prendre conscience des effets de nos actions sur les autres. La recherche serait le livre de l'autonomie, non le livre de la solidarité, le livre du moi, d'une certaine façon, non le livre de l'autre. Le domaine propre de ce roman serait celui des obligations vis-à-vis de soi et non des obligations vis-à-vis de l'autre. D'une certaine façon, lire la recherche de cette façon, la placer de ce côté, c'est conforme à la lecture que je vous proposais dans le premier cours et que je trouvais chez Georges Bataille dans La littérature et le mal. Lorsque Bataille, au début des années 50, montrait, contre tous les procès qui avaient été faits à la recherche du temps perdu, livre immoral, livre amoral, lorsque Bataille montrait que c'était un livre d'une autre morale, d'une morale supérieure, d'une morale souveraine, qui n'était pas soumise aux obligations ordinaires vis-à-vis des autres, obligations qui sont celles de la morale conventionnelle et conformiste. Et vous vous en souvenez, Bataille prenait précisément l'exemple du mensonge et de la manière dont le narrateur s'autorisait au mensonge, était autorisé au mensonge au nom de la vérité, au nom de sa quête de la vérité, puisque c'était en mentant qu'il pouvait rejoindre la vérité, en tout cas sa vérité, et nous pourrions dire avec Rorty son autonomie. L'apologie du mensonge était une thèse séduisante chez Bataille. C'était la thèse, en effet, d'un Proust nietzschéen. D'un Proust nietzschéen se réclamant d'une morale souveraine, la morale des artistes, à la recherche de cette vérité esthétique et métaphysique. On pourrait dire que chez Montaigne, que j'évoquais il y a un instant, d'une certaine façon, ce que Montaigne mettait en cause lorsqu'il exigeait la fidélité à l'autre, même en cas de force majeure, ce que Montaigne dénonçait, c'était une morale souveraine. À ce moment-là, c'était la morale du machiavélisme. Au nom de la souveraineté, au nom de la raison d'État, le prince peut mentir et un certain nombre de serviteurs du prince sont aussi autorisés à mentir ou à agir en contradiction avec la morale ordinaire pour le bien de la République, pour le bien commun. C'est toute la réflexion sur l'utile et l'honnête, la fin et les moyens, la morale publique et la morale privée. D'une certaine façon aussi, chez Montaigne, c'était une morale souveraine qui était en cause, et Montaigne l'a refusée, en tout cas pour lui-même. Eh bien, je dirais que c'est cette vision-là que j'aimerais bien contredire, que je voudrais contredire. L'idée qu'il y ait deux sortes de livres, des livres de l'autonomie et des livres de la solidarité, des livres qui nous aident à devenir plus autonomes et des livres qui nous aident à devenir moins cruels, et l'idée que Proust est carrément du côté des livres qui nous aident à devenir plus autonomes. Je voudrais contredire cette idée, non pour défendre la recherche comme un livre de bonté instinctive, suivant l'expression qu'on avait vue la semaine passée, non comme un livre philanthropique, généreux, un livre marqué par la bienveillance, la bienfaisance, la serviabilité, l'altruisme, la compassion, mais pour montrer, et je crois qu'on peut le faire, on peut montrer que la connaissance de soi-même, suivant cet adage socratique, ridiculisé par Cotard, ou le devenir de soi-même, suivant l'adage nietzschéen, qui sert à beaucoup de philosophes aujourd'hui à décrire le livre de Proust, eh bien cela passe par la conscience des effets de nos actions sur les autres, et en tout cas dans la recherche, c'est toujours inséparable de cette question des effets de nos actions sur les autres. Il n'y aurait donc pas deux sortes de livres, ceux qui rendent plus autonomes et ceux qui rendent moins méchants, car ces deux dimensions sont difficilement séparables. D'où la troisième piste que je voudrais essayer d'explorer davantage avec vous. J'ai dit, si vous vous en souvenez, qu'au fond, le retour de la morale aujourd'hui, le retour d'une lecture morale de la recherche du temps perdu, elle peut premièrement considérer la recherche du temps perdu comme un livre de recettes. Elle peut deuxièmement considérer la recherche du temps perdu comme un livre de cas moraux, et c'est ce que font beaucoup de ces philosophes moraux qui cherchent des exemples dans la recherche du temps perdu, soit des recettes, soit des exemples pour illustrer des thèses morales. Eh bien, troisième voie, troisième piste, qui serait au fond celle de la réappropriation littéraire de l'éthique, par opposition à l'expropriation éthique de la littérature, c'est-à-dire le retour à une lecture de l'interaction, de l'interlocution, j'ai souvent employé cette expression, le retour à tout ce qui interloque dans la recherche du temps perdu, en refusant de séparer l'autonomie et la solidarité. Non pas donc lire la littérature moderne comme si elle répondait aux questions que posait la littérature classique, mais la lire en pensant que la pensée de la littérature n'est pas la pensée de la philosophie, que la littérature pense les problèmes autrement, je ne dis pas mieux, ni moins bien, elle les pense autrement, sans les limitations que peut avoir l'argumentation philosophique rationnelle. Souvenez-vous du dilemme, de l'angoisse dans laquelle se trouvait Proust en 1908 au moment de se mettre à la recherche du temps perdu, de se jeter à l'eau. Et c'est une angoisse qui est exprimée au début de ce carnet 1 qu'il tient en 1908 lorsqu'il écrit. Il a à ce moment-là l'idée d'un livre, l'idée d'une thèse, c'est celle de la mémoire involontaire, c'est celle qu'on retrouvera à la fin du temps retrouvé. Et il dit de cette idée, faut-il en faire un roman, une étude philosophique ? Suis-je romancier ? Question existentielle. Que suis-je ? Qui suis-je ? Question existentielle, suis-je romancier ? Cette idée est-elle une idée pour un roman ou pour une étude philosophique ? Elle pourrait être traitée soit dans un roman, soit dans une étude philosophique. Elle pourrait faire l'objet de l'un ou de l'autre, et Proust choisit ici la forme du roman. Pour reprendre la distinction que je faisais l'autre jour, où je vous disais il y a l'éléphant et puis il y a le cornac. Il y a ceux qui s'intéressent au cornac et puis il y a ceux qui s'intéressent à l'éléphant. La littérature n'ignore pas le cornac, la morale rationnelle, mais elle pense que sans éléphant, il n'y aurait pas de cornac. Alors que sans cornac, me semble-t-il, il resterait un éléphant. À ce propos, je voudrais vous connaissez sûrement la fable de l'éléphant et des savants, puisque je n'ai cessé de comparer à la littérature ici à l'éléphant. À l'éléphant, et dit que nous allions nous intéresser à l'éléphant. Vous savez qu'il y a plusieurs manières de s'intéresser à l'éléphant, mais je vous raconte quand même cette fable que vous connaissez bien. Je vous en donne la dernière version que j'ai trouvée. C'est celle d'Albert Thibaudet dans les réflexions sur la littérature que j'ai publiées l'année dernière. Voici comment il la raconte. Il s'agit d'écrire un ouvrage sur l'éléphant. L'anglais part pour l'Afrique et les Indes et on rapporte un gros mémoire en désordre, bourré de descriptions et de chiffres, y compris celui de ses notes d'hôtel. L'Allemand descend en lui-même pour y trouver l'idée de l'éléphant, l'éléphant en soi, lourd éléphant. Le Français écrit au café du jardin d'acclimatation un brillant article sur l'éléphant. Le Polonais rédige un mémoire sur l'éléphant et la question polonaise. C'est écrit en 1925, dans l'entre-deux-guerres. Et le Russe apporte un livre qui s'appelle « L'éléphant existe-t-il ? » Vous le voyez, si la littérature, c'est l'éléphant, si la littérature s'occupe de l'éléphant, il y a beaucoup de manières de s'occuper de l'éléphant. Et peut-être que Proust s'en occupe à la manière anglaise. Gros mémoire en désordre, bourré de descriptions et de chiffres, y compris celui des notes d'hôtel. Longtemps, donc, nous avons laissé de côté cette dimension morale de la littérature, cette dimension qu'un certain nombre de rivaux, peut-on dire, en l'occurrence les philosophes, s'appropriaient cette littérature. Mais je crois qu'il y a eu un certain nombre d'ébauches, de retours de la littérature vers des considérations morales. L'an dernier, dans ma leçon inaugurale, je citais notamment Paul Ricoeur, qui soulignait combien le récit était indispensable à la construction de soi, à l'identité narrative, sans laquelle il ne saurait y avoir de dimension morale de l'existence. Ici, aujourd'hui, pour essayer de donner quelques idées sur la manière d'aller vers la littérature avec un souci moral ou éthique, je voudrais me tourner vers un autre philosophe contemporain et vers la manière dont il définit l'identité, la subjectivité. Il s'agit du philosophe canadien Charles Taylor. Et je voudrais citer un texte qui est dans un livre de 1985 qui s'appelle le livre Human Agency and Language. Titre qui est bien difficile à traduire, le mot anglais de agency dans le vocabulaire philosophique est compliqué à rendre en français. Agency, c'est l'agent, c'est l'agence, peut-être faudrait-il encore mieux traduire par l'agir humain et le langage, c'est l'identité, c'est la subjectivité. Et dans ce livre, Taylor cherche à penser les relations de la subjectivité, du moi ou du soi, du self en anglais, et du langage, justement hors des hypothèses polaires, extrêmes, de la précédence de l'un ou de l'autre. Il cherche là aussi à se sortir de ces thèses contradictoires. Qui contrôle qui ? Le sujet contrôle le langage ou le langage contrôle le sujet ? Thèse classique, métaphysique, logocentrique, comme on l'a appelé, thèse qui affirme la précédence, la clarté, le contrôle du sujet, et à l'opposé, thèse de la déconstruction qui affirme l'assujettissement du sujet au langage. Entre le logocentrisme métaphysique et la déconstruction anti-métaphysique, si l'on veut, entre le contrôle de l'un et le contrôle de l'autre, Taylor insiste sur ce qu'il appelle l'espace intermédiaire, le space between. Il valorise ce qu'il appelle les réseaux d'interlocution, webs of interlocution. Et il insiste sur la dépendance mutuelle, l'interaction, l'entre-deux, la solidarité justement du langage et du sujet. Ce qui me rappelle cette phrase de Montaigne que je citais tout à l'heure, un parler ouvert ouvre un autre parler, où la parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Taylor écrit par exemple, « Il n'y a pas moyen pour nous d'être introduits à l'identité sans être initiés au langage. » Suivant cette thèse, nous nous dégageons comme des sujets à partir de notre ancrage dans des réseaux discursifs, dans des réseaux d'interlocution qui nous donnent, mais aussi qui peuvent nous couper la parole. C'est ce qu'on a vu à Combray la semaine passée, je crois, lorsque nous décrivions à Combray ce qui s'appelait cette sorte de patriotisme de Combray, cette solidarité de Combray. Et au fond, c'est ce qui se produit dans tous les milieux successifs que traverse le narrateur de La recherche du temps perdu. C'est pourquoi, dans La recherche du temps perdu, il importe d'être si attentif à l'interlocution et au trouble de l'interlocution. La semaine dernière, dans l'exposé de Jacques Dubois, nous avons eu de beaux exemples, puisque les exemples qu'il nous a donnés, c'était tous des exemples, et il y en a des milliers dans La recherche du temps perdu, de troubles de l'interlocution, troubles de la parole et du discours. Dans son grand livre sur l'identité moderne, Charles Taylor est l'auteur d'un grand livre qui s'appelle en français « Les sources du moi », qui est traduit en français sous le titre « Les sources du moi », la formation de l'identité moderne, cette sorte de généalogie de l'identité. Charles Taylor définit à l'orée de ce livre ce qu'il appelle donc ces réseaux d'interlocution essentiels dans la formation de l'identité. Je le cite, mais c'est ma traduction. On ne peut pas être un soi, self, tout seul. Je suis un soi en relation avec certains interlocuteurs. D'une part, en relation avec ces partenaires de la conversation qui ont été essentiels pour que je parvienne à une autodéfinition. D'autre part, en relation avec ceux qui sont à présent cruciaux pour ma pénétration continue des langages et pour mon autocompréhension. Et bien sûr, ces classes peuvent évoluer. Un soi existe seulement au-dedans de ce que j'appelle des réseaux d'interlocution. C'est cette situation originale qui donne son sens à notre concept de l'identité, donnant une réponse à la question de qui je suis à travers une définition du lieu d'où je parle et avec qui je parle. La pleine définition de l'identité de quelqu'un engage ainsi d'habitude non seulement sa position en matière morale et spirituelle, mais aussi quelques références à une communauté définitoire. Vous voyez qu'il y a là l'idée qu'il n'y a d'identité que dans ce dialogue avec une communauté par rapport à laquelle il y a auto-définition et auto-compréhension de soi. On peut formuler une petite réserve, en tout cas je voudrais la formuler ici, sur cette distinction entre une auto-définition de soi qui serait en quelque sorte préalable, hein, ceux qui ont été essentiels pour que je parvienne à une auto-définition, et puis une auto-compréhension présente, comme s'il y avait un avant et un après, un socle et puis une construction. Les deux, évidemment, ne sont pas séparables. Et c'est bien là tout le sens du « deviens qui tu es », nietzschéen. Il n'y a pas de connaissance de soi qui précède le devenir de soi. Et du reste, aussitôt qu'il les a opposés, Charles Taylor les rejoint, puisqu'il dit « bien sûr, ces classes peuvent évoluer ». Il n'y a pas d'identité sans communauté dialogique. L'identité jaillit dans des réseaux d'interlocution. Les idées morales, nous dit-il encore, sont constituées dans et par le langage, dans et par la culture. Et à la différence de Rorty, qui opposait deux sortes de livres, Taylor, lui, oppose deux sortes d'éthiques. Il y a celle qu'il qualifie de mince et celle qu'il qualifie d'épaisse. Les éthiques minces, ce sont celles qui procèdent par des règles, des impératifs. Les éthiques épaisses, ce sont celles qui s'appuient sur des récits qui sont en quelque sorte narratives et non prescriptives. Et ce qu'il nous explique, c'est au fond que la manière dont nous nous racontons nos vies, dont nous vivons, les constructions narratives sur lesquelles nous nous appuyons pour avoir une morale, eh bien, elles sont épaisses, au sens, pourrait-on dire, de confuses, de denses, embrouillées, compliquées, comme la casuistique, comme les longues phrases de Proust, qui cherchent à épouser les méandres de la réflexion sur soi, de l'autodéfinition, de l'autocompréhension, ou encore comme les romans touffus, saturés de Dostoïevski, ses frères Karamazov, au bout desquels tout le monde est coupable et personne n'est coupable. Il y a donc l'idée que ces morales épaisses, par opposition aux morales minces, eh bien, elles sont du côté de la littérature, et que la morale, il faut la ramener du côté du dialogue, de l'herméneutique. Elle est plus proche de l'herméneutique que des règles. Ce que je voudrais en retenir, c'est l'idée que nous existons comme sujet dans ces réseaux d'interlocution, dans ces processus dialogiques, et là encore, on peut se référer et songer à Montaigne. Montaigne qui dit, par exemple, dans le chapitre de l'institution des enfants, « Je ne dis les autres, sinon pour d'autant plus me dire. » Chez Montaigne, il y a constamment cette circularité du même et de l'autre, cette circularité herméneutique qui sert à la définition d'une morale. Ainsi, et c'est l'une des hypothèses que je cherche à explorer ici, il me semble qu'on peut soutenir que la littérature, avec Charles Taylor, est plus fidèle à cette épaisseur, à cette difficulté, à cette complexité de la vie morale et à cette opacité des individus. Je change ici un article assez fameux de la romancière et philosophe Iris Murdoch. C'est un article qui est une sorte de manifeste littéraire, son manifeste littéraire écrit à la fin des années 50, au début des années 60, intitulé « Against dryness », contre la sécheresse, contre le sec, faudrait-il dire. Et dans cet article manifeste de son art du roman, Iris Murdoch s'élève contre la tentation du purisme en littérature qu'elle attache à la tradition symboliste, à la tradition moderne, et qui voudrait, dit-il, que nous trouvions la beauté dans les petites choses sèches, hein, du côté du pur et non de l'impur. Elle dit qu'il y a la tentation d'une littérature qui nettoie la vie quotidienne de la contingence, des détails inexpliqués, des fils dénoués, des fils qui pendent, si vous voulez. La littérature, c'est le reproche qu'elle fait à la littérature moderne, à la littérature donc des années 50, des années 60, eh bien, cette littérature, dit-il, elle ne nous donne plus le sens de la densité, de l'épaisseur de la vie. Elle ne nous donne plus, pourrait-on dire, à voir comment la subjectivité se construit dans ces communautés, dans ces réseaux d'interlocution. Au fond, Iris Murdoch fait un plaidoyer en faveur des gros romans, comme les Anglais, les savants anglais s'occupaient des éléphants. Faveur des gros romans et à l'idée de sécheresse, de dry, elle oppose ce qu'elle appelle en anglais, là aussi ce n'est pas très facile à traduire, elle dit au sec, au dry, au pur, elle oppose ce qu'elle appelle le messy. Il faut que les romans soient messés, c'est-à-dire lâches, désordonnés, embrouillés. Non, ce n'est pas l'humide, mais c'est le non-soigné, c'est l'impur. La littérature doit être lâche, desserrée, épaisse, embrouillée, débordante, pour accueillir la contingence de la vie et poser les questions morales telles qu'elles se posent dans la vie moderne. Quand elle oppose ainsi une littérature sèche et une littérature embrouillée, eh bien, ça me fait penser à une opposition que je trouvais chez Thibaudet, justement, entre les romans qu'il appelait composés et les romans déposés. Les romans composés, c'était les romans français, analytiques, sur le modèle de la tragédie classique. Et les romans déposés, à ses yeux, c'était les romans anglais ou les romans russes. C'était ces romans assez désordonnés, justement, pour un esprit français. Et c'était ces romans qui, au fond, avaient une dimension de messie, si on pourrait dire, si on voulait être plus négatif, de débrailler. Souvenez-vous de la phrase que nous citait la semaine passée Jacques Dubois, justement à propos de l'amateur de Le Sidanaire, qui était incomplet, être incomplet. Ainsi, le narrateur le caractérisait-il. Il parlait bien des livres, mais non de ceux des vrais maîtres, de ceux qui se sont maîtrisés. Il parlait donc des livres de ceux qui se sont maîtrisés, non de ceux qui ont admis cette composante de désordre, d'impureté, de non-soigné qui inclut la vie. Eh bien, vous savez qu'on trouve assez souvent chez Proust cet éloge de l'épaisseur. Dès le début de la recherche, c'est l'esthétique de la grand-mère qui refuse d'offrir au narrateur des photographies parce que, dit-elle, les photographies sont plates, manquent d'épaisseur. Elle essayait de ruser et sinon d'éliminer entièrement la banalité commerciale, du moins de la réduire, de s'y substituer pour la plus grande partie de l'art encore, d'y introduire comme plusieurs épaisseurs d'art. La limitation de la philosophie morale serait donc liée à ce côté soigné, ordonné, rigoureux, alors qu'il faut accepter, en tout cas c'est ce que nous dit Iris Murdoch, et c'est ce qui est son art du roman. Elle aussi est une grande amatrice du roman russe. Il faut accepter le caractère profus, désordonné de la littérature. Il faut accepter que l'investigation morale à laquelle elle procède soit tâtonnante, approximative, heuristique, non algorithmique. Il faut accepter l'ambiguïté, l'opacité, l'inachèvement. Il est donc nécessaire de lire autrement. La lecture littéraire commence par la désorientation et la perte. Avant d'apprendre, il faut se perdre. Il faut lire avec d'autres yeux et Iris Murdoch nous fait l'éloge de cette lecture sans défense. La réduction de la morale à des règles, dit-elle, c'est une façon de se protéger de l'ambiguïté du monde, de son côté embrouillé et désordonné, car la vie est pleine de ce qu'on appelle justement dans une histoire, dit-elle, des loose ends. Là aussi, je ne sais pas bien comment traduire. Des fils qui pendent. La vie est pleine de fils qui pendent. S'il n'y a pas de fils qui pendent dans un roman, eh bien, c'est un roman sec. S'il n'y a pas de détails inexpliqués, de fils non rentrés. La littérature, nous dit-elle, a souvent peur de l'impur monde moderne, plein d'impurs personnages modernes, avec des impures opinions modernes. C'est Messi que je traduis par impur. Une littérature, aurais-je envie de dire, une littérature sans fil qui pende n'a pas de vertu morale. La littérature doit laisser pendre les fils. Comme lors de la rencontre de Charlus et de Jupien dans Sodome et Gomorre 1. C'est Charlus qui regarde Jupien avec la fixité particulière de quelqu'un qui va vous dire « Pardonnez-moi mon indiscrétion, mais vous avez un long fil blanc qui pend dans votre dos. » Ou bien « Je ne dois pas me tromper, vous devez être aussi de Zurich. Il me semble bien vous avoir rencontré souvent chez le marchand d'antiquités. » Voilà justement de fausses reconnaissances de ces éléments qui sont perdus dans le roman, de ces fils mystérieux que la vie brise, dont Proust parle dans « Le temps retrouvé ». Tout a l'air de se rejoindre, même dans le temps retrouvé, les deux côtés, le carrefour de la forêt, Et pourtant, le narrateur insiste encore sur le fait qu'il y aura dans le livre des mystères qui n'ont probablement leur explication que dans d'autres mondes et dont le pressentiment est ce qui nous émeut le plus dans la vie et dans l'art. J'arrêterai là pour aujourd'hui.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.